France Inter.
Bonjour, ici Eva Bester. Je vous propose une série consacrée à la musique classique et à ses interprètes virtuoses. Les pianistes Alexandre Tarot et Shani Di Luca évoqueront Ravel et Kafka, la violoncelliste Sol Gabetta parlera de Mendelssohn et le chef d'orchestre Raphaël Pichon rendra hommage à Schubert, Bach ou encore Rameau. Les mœurs des auditeurs, connaisseurs et néophytes seront adoucies et les âmes, j'espère, fort réjouies. Dans ce premier épisode, rencontre avec le pianiste Alexandre Tarot pour son dernier opus, consacré à deux concertos pour piano de Ravel, doublé d'un hommage au compositeur espagnol Manuel de Falla. Les virtuoses du classique, épisode 1, Alexandre Tarot. Le pianiste Alexandre Tarot a réjoui les oreilles en donnant à entendre, entre autres, la beauté lacrymale de Schubert, la mesure rassurante de Rameau, l'aura céleste de Bach, la profondeur charismatique de Beethoven et l'impressionnisme si contemporain de Ravel, dont il a enregistré l'intégrale de l'œuvre pour piano. C'est à ce dernier compositeur qu'il revient, avec un opus dédié à deux concertos pour piano avec l'Orchestre National de France, sous la direction de Louis Langrée, le concerto en sol majeur M83 et celui pour la main gauche en ré majeur M82. L'album fait aussi honneur au compositeur espagnol Manuel de Falla et à ses nuits dans un jardin d'Espagne. Il est sorti le 13 octobre dernier sur le label Erato, et ce qui frappe, c'est la modernité qu'on entend chez les deux compositeurs. Maurice Ravel, né en 1875, évoque un élan vital composé de ruptures rythmiques, ayant presque la liberté du jazz, tandis que de Falla figure des scènes de films en costumes magnifiques, peut-être même y aura-t-il des chevaux. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Alexandre Tarot.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Oh, rentrée de tournée hier soir, j'ai pensé que l'agressivité des Parisiens ne s'arrangeait pas, mais j'ai surtout pensé en venant ici, en voiture, à ma voisine du cinquième étage, qui s'appelle Rose, qui est une femme brune, à la personnalité bien trempée, avec un regard qui perce et qui est malheureusement très malade. Alors on se voit régulièrement, elle ne peut plus parler, mais on se tient la main, on se regarde et ça nous fait du bien. Je pense qu'après chacune de mes visites, ça me fait relativiser évidemment les désordres du monde et les miens.
Alexandre Tarot, sur votre prochain album, il y a deux concertos pour piano de Ravel, le concerto en sol majeur et celui pour la main gauche en ré majeur. Est-ce que vous pouvez raconter pourquoi est-ce que ce concerto est pour une main gauche ?
Il l'a écrit pour un pianiste, Paul Wittgenstein, qui était autrichien, qui avait perdu son bras droit à la guerre, et qui avait de l'argent, qui a fait des commandes à plusieurs compositeurs, dont Prokofiev, Korngold, enfin des compositeurs vraiment connus, et à Ravel, qui est le seul à vraiment avoir, enfin, il a écrasé tous les autres par son génie, parce que écrire un concerto pour main gauche, la main gauche est gauche par définition et elle sonne moins que la main droite. Nous, pianistes, nous avons l'habitude de faire sonner, de faire chanter le piano avec notre main droite. Et en général, c'est ce qui se passe dans toute la musique jusqu'au début du XXe siècle, c'est la main gauche qui accompagne. Notre main droite a plus de poids, elle est plus sonore et elle sait chanter. Alors écrire pour la main gauche, c'est plus difficile, surtout quand il y a 80 musiciens derrière. Un énorme orchestre derrière. Et Ravel a eu ce coup de génie de faire un orchestre, d'écrire pour l'orchestre une partition transparente qui laisse la place au piano. On entend le piano tout le temps. Le soliste a de larges parties solo, justement, où il est seul ou avec un ou deux instruments, ce qui permet d'avoir une narration fluide du début à la fin.
Comment s'est passée justement cette cohabitation avec l'Orchestre National de France dirigé par Louis Langrée ? Comment avez-vous travaillé avec l'orchestre ? Comment est-ce qu'on trouve sa place dans un concerto ?
Alors c'est le chef justement qui fait, je parlais de fluidité, qui fait fluidifier toute cette énergie. D'ailleurs je n'aime pas cette dénomination, le chef d'orchestre. Ce n'est pas un chef, on n'est pas à l'armée, ce n'est pas un numéro de cirque avec des fauves et un fouet. Le chef c'est plutôt celui qui écoute justement ces 80 musiciens et ce soliste, donc c'est 81 musiciens, et qui va les entourer, les porter, les enrober, faire en sorte qu'ils se les révéler pour qu'il y ait une énergie commune, une vibration commune qui soit la plus commune possible et que ça sonne.
Et ça a été simple pour vous, Alexandre Tarot ?
Très simple, d'abord parce que l'Orchestre National de France est pour moi l'un des meilleurs orchestres au monde. Il y a des vents qui sont essentiels dans la musique de Ravel. Alors tous les auditeurs ne savent peut-être pas que les vents français sont parmi les meilleurs au monde. Les vents, c'est-à-dire le basson, le hautbois, la flûte, mais aussi les cuivres, donc la trompette, le trombone, etc. Et on a vraiment des musiciens absolument extraordinaire dans cet orchestre, qui font que c'est l'orchestre idéal pour cette musique. Et face à cet orchestre, enfin entre l'orchestre et le soliste, un chef d'orchestre, Louis Langrée, qui est une lumière à lui tout seul, qui n'a pas cet égo démesuré de certains chefs, qui est vraiment à l'écoute de tout le monde, qui donne une place à chacun, qui écoute les musiciens. Vous voyez, un grand chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui écoute, c'est pas celui qui ordonne. Et si vous le croisez un jour dans les couloirs de cette grande maison de Radio France, dites-lui bonjour. Et vous verrez par son sourire, par sa réponse, qu'il éclaire votre journée en un quart de seconde. C'est vraiment quelqu'un qui apporte un certain apaisement autour de lui.
On va tous le chercher comme dans Où est Charlie, toute la maison de la radio. Ravel, Alexandre Tarot, fait partie de votre panthéon. Vous avez enregistré l'intégrale de son œuvre pour piano. Vous avez reçu l'un de vos grands prix de l'Académie Charles Cros pour votre interprétation de son œuvre. Et j'ai lu qu'à l'âge de 19 ans, vous avez signé votre premier album, Ravel, un album qui n'est pas édité. Quel mystère tourne autour de cet album ?
Parce que j'étais jeune, trop jeune. Et ce n'est pas un bon album parce que tout premier disque, tout premier enregistrement d'un pianiste est maladroit. On assemble les meilleures prises, alors on fait n'importe quoi avec le montage, parce qu'on pense que mettre 10 prises merveilleuses ensemble, ça va donner... Non, elles s'annulent entre elles.
Et il faut un peu d'imperfection.
Et il faut des failles, mais ça on l'apprend sur le tas, avec l'expérience. J'avais un bon guide, c'était Georges Kisselov, qui était un très vieux monsieur, très épais. Alors il m'attendait dans son studio, c'était le studio du boulevard Blanqui, qui existe toujours, mais il était très poussiéreux à l'époque. Pas lui, mais le studio, quoique. Et j'arrivais dans le studio à 10h du matin, il était déjà installé, il ne bougeait jamais de son fauteuil. Et puis j'en ressortais vers 7h du soir, il était là, je me demandais s'il dormait peut-être dans sa cabine. Et il s'endormait, ce monsieur-là, je me souviens. Donc, entre deux prises, on écoutait la prise et il me disait « Mais Alexandre, c'est une très bonne prise, mais je crois que... » Et pof, il s'endormait. Alors, on attendait. Il y avait l'accordeur qui était là, je me souviens très bien, monsieur Clem. Et on attendait. Et puis, une minute après, il se réveillait et il continuait sa phrase. C'était un grand ingénieur du son. Vous savez, pour un enregistrement réussi, il faut un guide qui soit là, derrière les enceintes, derrière son ordinateur. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'ordinateur, c'était plutôt des bandes. Et il a été un merveilleux guide pour un premier album. Et puis, la maison de disques avait dit oui, a dit non. Et ce disque n'est jamais sorti. Grâce à mon père qui a cassé sa tirelire, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il a fait en sorte que ce disque... qui n'a pas été distribué, mais soit quand même disponible sous forme physique. Ça a été ma carte de visite pour débuter une carrière très balbutiante et très timide.
Est-ce qu'on se lasse d'un compositeur qu'on adore, qu'on joue, qu'on écoute, comme Ravel ? C'est possible de se lasser ?
On s'en lasse comme avec les gens, c'est-à-dire quand on ne renouvelle pas la relation, quand on ne se bouscule pas. La musique de Ravel est pleine de détails. C'est une musique d'ailleurs très difficile à interpréter parce qu'il faut le lâcher prise, comme toujours, sur scène ou face au micro, mais avec une montagne de détails derrière. Alors, chaque matin, si on travaille Ravel, il faut savoir qu'on ne sait rien de sa musique et il faut se bousculer, oui, aller rechercher quel détail ne va pas, la ligne. Il faut une grande ligne dans l'interprétation de Ravel. C'est vraiment difficile de penser à ce travail d'orfèvre dans les détails et en même temps, cette grande ligne, c'était un romantique caché. Et comme chez tout romantique, il faut trouver le juste aboutissement de la ligne.
On va écouter quelques extraits, mais avant ça, Alexandre Tarot, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le futur biopic d'Anne Fontaine consacré à Ravel, qui s'appellera Boléro? Est-ce que vous avez fait dedans?
Alors c'est très amusant, mais l'histoire est très triste, puisqu'elle raconte la vie de Ravel à travers la création et la jeunesse du Boléro, l'un de ses grands chefs-d'œuvre. Ravel est joué par Raphaël Personnaz, alors qui est absolument fantastique dans ce rôle. Il y a des acteurs incroyables, comme Emmanuel De Vos. Et puis, j'ai deux scènes où je campe critique absolument épouvantable, détestable, et qui déteste, en tant que critique détestable, Ravel, sa personnalité et sa musique. J'ai deux scènes.
C'est
la première,
amusant.
Il lui dit que c'est absolument une merde et qu'il le croit incapable de produire la moindre émotion, contrairement au grand Debussy. Et la deuxième scène, plus vers la fin, enfin dans le dernier tiers du film, c'est après la création du Boléro à l'Opéra de Paris. Et là, ce critique voit que tout Paris est au pied de Ravel et a compris que c'était vraiment, enfin depuis longtemps d'ailleurs, un grand génie. Alors il retourne sa veste et il vient voir Ravel et lui dit « Mais écoutez, alors, il reste détestable quand même. » Il dit « Oui, vous m'avez provoqué une espèce d'émotion, mais voilà, il reste quand même un petit peu dur avec Ravel. Et moi qui adore Ravel depuis que je suis né, il m'accompagne, je l'accompagne, je le programme énormément, c'est vraiment mon chouchou, mon chéri, mon compositeur chéri. Ça m'a amusé d'avoir ce rôle absolument insupportable.
Vous n'avez pas eu peur des représailles du fantôme de Maurice Ravel ?
Non, absolument pas.
Alors écoutons le début du premier mouvement du concerto en sol majeur. Alexandre Tarot, vous qui avez interprété les classiques et les contemporains comme Barbara ou certains morceaux de compositeurs mythiques de musique de film, vous pensez que toute la musique doit être jouée comme de la musique contemporaine et c'est ce qu'on ressent dans cet album. Là par exemple, dans ce premier mouvement, le début est joyeux, enlevé, on est du côté de l'élan vital, puis 45 secondes plus tard, l'atmosphère est plus langoureuse, c'est ce qu'on entend là, puis de nouveau il va y avoir un changement de rythme, un changement qui se multipliera au cours des morceaux. Je parlais de la liberté du jazz c'est tout vrai. À l'heure, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, alors je ne suis pas jazzman. On entend beaucoup de jazz dans cette musique.
Oui.
Vous avez entendu les tatam, tatam oui. comme des cymbales. Voilà, ici par exemple. Il imite le jazz, c'est l'un des premiers dans la musique classique. Vous savez, un enregistrement c'est très difficile, c'est presque inhumain, c'est presque contre-productif parce qu'on, par exemple, ce début, on l'a joué, je ne sais pas, 20 fois, au moins 20 prises avec orchestre. Comment garder le naturel ? Comment jouer comme une partition qu'on vient d'ouvrir, en effet. Comment arriver ? Donc, ce que je fais, c'est que je change les nuances. Par exemple, ici, normalement, on joue un tout petit peu plus vite, avec plus d'élan, de nervosité. Et non, sur cette prise-là, et uniquement sur celle-là, j'ai décidé de faire presque un pianissimo, de retenir, pour repartir encore mieux après. Mais pour me surprendre, pour surprendre Louis Langrée, ce chef extraordinaire et éminemment ravelien, mais surprendre aussi l'orchestre. Comme ça, ils sont sur le qui-vive, qu'est-ce qui se passe ? Et ils vont mieux jouer la mesure d'après. Un enregistrement réussi, c'est un enregistrement où il y a plein de tunnels, de surprises, de choses qui ne vont pas. Pour laisser place à des choses qui vont. J'ai beaucoup de mal à parler de la manière dont on doit enregistrer. Vous voyez, maintenant, c'est beaucoup plus pétillant et plus précis, presque comme une machine. Ravel aimait les machines, les usines.
Il y a certains moments où on dirait presque des musiques de film. Là, vous, ce que vous évoquez, Alexandre Tarot, c'est le jeu et la notion de jeu, c'est très important pour vous. Vous parlez toujours de la dramaturgie d'un disque. Vous dites qu'on doit raconter quelque chose, tenir en haleine. Comment est-ce que vous imaginez ça quand vous vous attaquez à un album ?
Je pense, oui, qu'on raconte des histoires avec notre instrument. Les premiers pianistes, qui étaient Liszt, Chopin, Thalberg ou autres, Czerny, racontait, on disait que Chopin va demain soir, venez au concert où Chopin vous dira un nocturne.
Il disait de la musique.
Et ça reste toujours en moi très profondément imprimé. Je suis né aussi musicalement avec un professeur admirable, Carmen Tacon, qui était une élève de Marguerite Long et qui avait appris, et qui m'a appris, à prononcer, à dire des paroles, à mettre des mots sur les notes que je jouais, que je joue. Et donc, je veux toujours J'espère que j'y arrive, hein. Peut-être pas toujours. Mais raconter une histoire, après, à chacun de l'interpréter, cette histoire.
Passons au romantisme et à la délicatesse de l'adagio. Qu'est-ce que ça vous évoque, Alexandre Tarot, ce morceau-là ?
Une grande solitude, ça m'évoque Ravel dans sa petite pièce de piano. Vous savez, il avait sa maison qui existe toujours et qui se visite sur rendez-vous à Montfort-l'Amaury, qu'il avait fait rapetisser les portes, parce qu'il était très petit, 1m64, et il avait besoin d'être comme dans une maison de poupée. Il a toujours son piano qui est là, ses murs violets autour, les tentures qu'il avait lui-même peintes. Et ça m'évoque aussi sa personnalité profonde,
quel était secrète. Son caractère
secret. Et vous voyez, quand il écrit cette musique, ce deuxième mouvement du concerto en sol, qui commence donc par une énorme cadence de plus de 2 minutes au piano seul, avant que l'orchestre, et la flûte principalement, rentre, on l'entend chuchoter finalement au piano ce qu'il ne peut pas dire dans sa vie. Alors nous, ces interprètes, c'est un cadeau merveilleux. Et il nous console, il se console. Ah, c'est difficile de mettre des mots sur cette musique, tant elle est intérieure. On sent qu'il voudrait dire plus.
Et ce qui est fou, c'est que c'est très impressionniste et qu'il y a une multitude d'émotions au fur et à mesure et que ça peut changer en une seconde. Par exemple, avec ce presto qui évoque presque une fête à Broadway avec des danseuses du Ziegfeld Follies. Là, on imagine une course vive à toute allure. Il y a un piano presque contemporain qui intervient.
Le jazz que vous entendez là, encore une fois, les machines. Il avait un amour fou pour les petits automates. Les usines. Quelque chose qui ne s'arrête pas, en effet, comme un bataillon de petits automates, justement, de petits guerriers, en pierre, en verre. Il avait plein d'objets chez lui qui sont toujours dans sa maison, d'ailleurs. Parfois de mauvais goût. Puis il y a l'enfance. Moi, j'entends l'enfance.
Les jouets.
Contes de Perrault, hein, les contes d'Andersen. J'entends des personnages, des sortilèges, enfin les sortilèges. C'était un homme qui adorait les enfants et qui adorait les jouets. Il se mettait volontiers par terre pour jouer avec des enfants, lui qui n'en a pas eu. Et je pense qu'il a laissé une place toute sa vie à l'enfant qu'il est resté. Un amour fou pour sa mère. Voilà.
Est-ce que, quand vous vous entendez jouer au piano, vous vous reconnaissez ou est-ce que ça fait parfois, comme on disait, dire le piano, comme Chopin ? Parfois, c'est étrange comme entendre sa propre voix enregistrée.
Non, je me reconnais, mais pas les premiers disques. Les disques qui ont plus de 10 ans, je ne me reconnais pas forcément. Enfin, je n'écoute pas mes disques. Mais à la radio, par exemple sur France Inter, s'il y a un disque, je me dis, ah, est-ce que ce serait moi ? Non, pas forcément. C'est un petit frère éloigné, voilà, un cousin. Mais quand on est jeune, on dit pas autant de choses, on contrôle surtout. Je sens un jeu contrôlé jusqu'à à peu près 37-38 ans.
Et ça, c'est l'acceptation de soi, c'est la sagesse, c'est le fait d'accepter qu'on
est
des failles.
C'est l'expérience, et puis je veux à tout prix, je parlais du lâcher prise tout à l'heure, je veux être à tout prix nu, mettre sur table toutes mes failles. Et pour ça, ce n'est pas facile devant un micro. Au concert, oui, le public nous y aide, Mais au micro, quand, encore une fois, on enregistre 50 fois le même passage, ben, on n'a plus l'inspiration, la fraîcheur.
Le mouvement lento du concerto pour la main gauche de Ravel qui figure sur votre prochain disque, Alexandre Tarot, une menace sourde et belle en même temps, une montée en puissance par la suite, et il y a quelque chose de céleste malgré la gravité terrestre toujours présente, comme si c'était l'harmonie de la terre et des cieux.
Oui, ça vient vraiment du très fond de la terre, on sent c'est son malaise de vivre qui est là au fond de ses entrailles. Ça vient de rien au départ, les premières notes que vous avez entendues, il est quasiment impossible de dire si c'est un la, ce sont les contrebasses. On a ça aussi dans d'autres œuvres de Ravel, par exemple la valse, qui sort pareil des ténèbres, puis ça monte, vous entendez tout l'orchestre qui commence à jouer. Et puis si on peut garder encore un petit peu, on va avoir le piano. Je vous parlais tout à l'heure des grandes cadences que Ravel a données au soliste pour que le soliste puisse bien s'exprimer sans avoir l'orchestre qui le piétine, et voici le piano qui va rentrer.
C'est vous là, Alexandre Tarot, qui faites votre entrée impériale.
Ouais, et c'est toujours difficile de jouer ça en concert. D'abord parce que quand on rentre sur scène, on se dit mais quelle idée j'ai eue de programmer ce concerto pour la main gauche. Sans notre main droite, sans notre bras droit, sans même tout le côté droit de notre corps, on n'est pas grand-chose. Et puis, il faut tenir tête à cet immense orchestre. Et vous avez entendu l'entrée, c'est la-la-dam, trois accords que l'on rate la plupart du temps. Donc, on attend cette longue introduction de l'orchestre. On se dit, mais est-ce que je vais jouer les bonnes notes sur ces trois premiers accords? Et c'est très rare qu'on arrive à faire les trois premiers accords rapidement, sans les égratigner. Heureusement, là, c'est un disque, donc on a pu reprendre plusieurs fois.
Vous êtes droitier ?
Je suis droitier, oui.
Là, on entend l'allegro quasi militaire avec une troupe en marche, avec quelques épisodes qui vont arriver comme des bulles de rêve, comme si une caméra filmait plusieurs scènes en même temps.
Exactement. Avec plein de personnages différents. Et vous entendez là, comme Ravel arrive à faire sonner le piano de manière extraordinaire, juste avec la main gauche, parfois que le pouce. Et l'orchestre d'ailleurs, derrière, qui l'accompagne sans le couvrir.
Jean Kelevitch disait de Ravel qu'aucune influence ne pouvait se flatter de l'avoir conquis tout entier et qu'il demeurait jalousement insaisissable derrière tous les masques que lui prêtaient les snobismes du siècle. Est-il encore insaisissable pour vous ?
En partie, oui.
Est-ce qu'on a des rivaux chez les autres musiciens quand on s'empare d'un compositeur ?
Des rivaux ?
Oui.
En tant qu'interprète ?
Oui.
Oh non, parce que si on est soi-même, on reste unique. Hein. Je pense qu'il y a énormément de pianistes, surtout les pianistes français, ils jouent tellement bien Ravel. C'est plutôt un poids, une grande responsabilité, enregistrer à nouveau les concertos de Ravel après tant de versions de légende. Depuis Marguerite Long, puis Samson François, et beaucoup de pianistes ces dernières années, et pas seulement des Français, des pianistes américains, chinois, allemands, italiens.
Alexandre Tarot, on arrive à la seconde partie de votre album. Est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs le compositeur espagnol Manuel de Falla ?
Grand compositeur espagnol, alors qui était un ami de Ravel. C'est pour ça que je les ai couplés. Je les ai couplés dans ce même album parce qu'il est très difficile de trouver une musique en miroir aux deux concertos de Ravel. Tant ces deux concertos sont absolument géniaux de la première à la dernière note. Donc mettre un autre compositeur, une œuvre concertante pour piano et orchestre à côté, c'est souvent écraser ce deuxième compositeur. Et j'ai pensé qu'avec De Falla, ça le mettait plutôt en valeur, De Falla. Ils ont des manières d'écrire différentes. Ces nuits dans les jardins d'Espagne en trois mouvements extraordinaires. Là aussi, c'est un grand film hollywoodien, presque hollywoodien. Ça a été écrit bien avant les deux concertos. Mais Ravel s'est inspiré de Falla, de sa science de l'orchestration. Et De Falla a été souvent à Paris, ils se sont rencontrés de nombreuses fois, et je trouve que cette amitié, elle peut se ressentir quand on écoute ces trois œuvres à la suite.
On va écouter un extrait de la Danza Lejana, la danse lointaine de Manuel de Falla, avec ses aspects ondulants, chaloupants et facétieux. Alexandre Tarot, là, qu'est-ce qui se passe ?
C'est une danse espagnole. Aussi, après les deux concertos de Ravel, je pense qu'il y a une forme de soulagement, parce que Ravel nous tient en haleine à chaque seconde de sa musique. Et avec De Falla, on est plus dans le, je sais pas, dans la danse, un certain plaisir, presque un plaisir coupable. Il est 2h du matin, là, ça chante, ça danse, on a bien mangé, mais on en redemande.
Comment est-ce que vous préparez vos enregistrements ? Est-ce que vous vous documentez avec des livres, des biographies, de la fiction ?
Oui, pour ce qui concerne Ravel, quand j'ai gagné un concours, j'avais 11 ans, mon professeur de piano, Carmen Tacon, m'a offert justement la biographie, qui n'en est pas une d'ailleurs, qui est un essai sur Ravel de Jean Kelevitch, avec une petite dédicace, elle a marqué, je lis toujours ce livre, je le garde précieusement, pour le meilleur Ravel du concours. Oh. Et donc j'ai lu péniblement, parce que pour un tout jeune, presque adolescent, l'écriture de Jean Kelevitch est difficile,
oui,
à lire et à comprendre.
Mais même pour des gens plus âgés. Là, moi, j'imagine des chevaux, parce que j'avais promis aux auditeurs qu'il y aurait peut-être des chevaux à un moment. Mais
imaginez des chevaux, je
avec
pense
des
que
femmes en robe.
Chez De Falla, c'est comme Debussy. Il met des titres, mais au fond, il nous dit « mettez le titre que vous souhaitez ». Chacune de ses œuvres, ce sont comme des opéras. Toute l'action qui se passe là derrière. Faites votre opéra vous-même. Vous êtes en même temps le metteur en scène, les chanteurs, les personnages, le décorateur et le costumier. Amusez-vous à créer. C'est ça la véritable interprétation quand on est auditeur.
On arrive à votre choix musical, Alexandre Tarot. Le morceau est surprenant, l'interprète les moins quand on vous connaît un peu.
Précis, au jardin de précis, précis, oh que j'aime tes soins de mélancolie, mélancolie, jardin, à ciel ouvert, jardin, et ce déjà le paradis. Attendre le soir précis, silence, juste le clocher qui sonne minuit, les oiseaux de soie qui se glissent et les pivoines endormies et les glycines qui frémissent au jardin de précis. Oh ma merveille, oh mon pays, suis-je déjà en paradis? si, bien sûr, un jour je m'en irai d'ici, plus loin, là-bas vers un autre pays. Mais si je peux vouloir quelque chose, j'aimerais savoir que fleurissent mes roses assez près pour ceux qui s'aiment, à ciel ouvert, que tu deviennes un square joli, tout petit, petit, un square qui deviendrait le paradis pour tous les enfants des îles. Oh mon cher jardin précis, oh ma merveille, mon précis jardin.
Précis jardin de Barbara dans Grand Canal sur France Inter. Alexandre Tarot, vous avez choisi ce morceau, vous qui avez un portrait de la chanteuse dans votre chambre, qui avez joué et enregistré ces morceaux, qui lui avait consacré un spectacle. Pourquoi Précis jardin ?
Parce que vous m'avez demandé une de ces chansons et je me suis dit je vais changer, mais j'adore cette chanson. Vous savez, on est, donc c'est 1980, mais elle l'a enregistrée un an avant, en 1980. Et à la sortie de ce disque qui s'appelle Seul, la France découvre une Barbara avec cette voix rauque, déchirée, une femme fatiguée, mais bouleversante, tellement bouleversante. Et cette chanson, au creux, au milieu de cet album, décrit sa maison, où elle s'abrite depuis 1973 et jusqu'à son dernier jour, à une heure de Paris, c'est Précy-sur-Marne, où le maire est Yves Duteil d'ailleurs. Et c'est un corps de ferme, comme ça, avec une sorte de cour de jardin au milieu dont elle parle. Je me suis toujours demandé, depuis cette chanson, pourquoi les chanteurs, auteurs, compositeurs n'écrivaient pas sur leur nid, sur leur cocon, sur les murs qui les abritent. Et elle a fait une chanson tellement merveilleuse, où elle part quand elle dit « Ne suis-je pas déjà au paradis ?» Elle est devenue jardinière, elle s'est occupée de ces plantes, de cet arbre, des fleurs qui bordent le mur au fond. Elle a travaillé, elle a vécu en recluse, enfermée comme ça, et elle laissait plusieurs années entre ses spectacles. Puis elle nous revenait, régénérée de ces temps gigantesques, cachés du monde. Elle était pourtant à l'écoute du monde comme personne.
Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager, Alexandre Tarot ?
Non, j'aimerais bien m'acheter une maison de campagne, mais je n'y serai pas. Donc, pour l'instant, c'est pas envisageable. Mais j'aimerais bien cette connexion à la nature qu'elle a découverte. Hein, parce que, avant, elle habitait Paris, comme moi. Et puis, il arrive un âge où on a envie de s'évader. Mais elle faisait un métier où on pouvait aussi, parce qu'à l'époque, encore maintenant, une grande chanteuse ne va pas sortir un disque tous les ans. C'est plutôt tous les 3-4 ans, voire plus. Et la tournée qui va avec. Alors elle se cloîtrait derrière ces murs épais.
Vous dites que vous habitez Paris, mais vous êtes la plupart du temps dans des pays étrangers.
Oui, mais je n'habite pas ces murs, ces pays étrangers. Je me déplace plus que je voyage, vous comprenez. Un pianiste, c'est quelqu'un qu'on prend comme un paquet, qu'on emmène à l'aéroport, qu'on prend à un autre aéroport, qu'on emmène à sa chambre d'hôtel, puis à la salle de concert, à la loge, à la scène, et ainsi de suite. Sur un fil tendu qui est la carrière de soliste, qui est une carrière difficile, mais que j'aime profondément.
Vous êtes un gracieux paquet, Alexandre Tarot.
Merci, jamais dit cette phrase.
Permettez-moi de vous la dire. Je vous ai demandé quelque chose à faire découvrir aux auditeurs. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, je sais qu'il y a une surprise, puisque je ne suis pas au courant, mais il y a aussi ce morceau que vous avez choisi. Je ne dis pas tout de suite qui c'est. Alexis Wessenberg, alias Mr. Nobody, qui arrange des airs de Charles Trenet. Là, on entend Paris en avril. Alexandre Tarot, pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce pianiste bulgare ?
Et de ce disque, parce que Alexis Weissenberg était une légende du piano, il l'est toujours. Il est mort il y a quelques années. Il me touche à bien des égards. La première chose, c'est qu'il a été, on peut le dire, abandonné. Il a vécu une forme de purgatoire à rallonge dans toutes les dernières années de sa vie. Vous le savez peut-être, les pianistes, on les prend, on les jette. Hein. On porte au nu certains pianistes. Je pourrais vous faire une liste de dizaines de pianistes, ne serait-ce qu'en France, qui sont absolument extraordinaires et qu'on a, à cause, par la décision d'une maison de disques, d'un agent, qu'on a jeté et qui le vivent évidemment très mal. Parfois, ils reviennent parce qu'on adore les pianistes âgés. Alors, par la grâce d'un article, d'un journaliste ou d'une maison de disques reconnaissante, un pianiste vers 80 ans va revenir à la surface. Alors, lui, il n'a pas été totalement abandonné, mais je dirais quand même qu'il est mort dans un certain oubli. Alors ça me touche. Et la deuxième chose, c'est que c'était un jazzman, comme vous l'entendez, absolument extraordinaire, et qui a enregistré sans mettre son nom sur la pochette. Parce qu'à l'époque, il était impensable de jouer du jazz quand on était un grand soliste, un grand interprète de Rachmaninoff ou de Bach. Et ça n'a pas beaucoup changé. Alors là, c'est pas que ça me touche, ça me révolte.
Et oui, parce que vous allez à l'inverse de ça, justement.
Mais tous ces répertoires se croisent et dialoguent ensemble.
Vous jouez Ennio Morricone, vous jouez Michel Legrand, Francis Lai, Nino Rota.
Avec le même engagement.
Il paraît que des gens vous écrivent pour vous dire qu'ils font l'amour sur vos sonates de Scarlatti.
Enfin, une personne, c'est pas le monde entier. Mais ça m'a fait très plaisir. Ouais, on reçoit des messages merveilleux, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On peut écrire. On peut écrire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors si on est heureux et qu'on a envie de remercier un pianiste qu'on ne connaît pas parce qu'il a enregistré Scarlatti ou Ravel et qu'on a mieux réussi notre gâteau au chocolat ou qu'on a mieux dormi ou qu'on a mieux fait l'amour, c'est très... De l'autre côté, on se sent utile, véritablement.
Alexandre Tarot, dans des interviews, vous disiez que vous ne pouviez vivre... Vous pourriez vivre sans musique, mais jamais sans la scène. La scène, c'est la vie puissance 1000, je vous cite. À côté, la vie paraît fade. Je me suis donc battue pour vivre la scène, ce n'était pas gagné. Où vous situez-vous par rapport à cela aujourd'hui ?
Au même endroit.
C'est vrai ?
C'est sur scène que je suis heureux.
Mais alors, c'est pas trop compliqué au quotidien, puisque la plupart du temps, vous êtes hors scène.
Non, mais on peut pas être heureux 24 heures sur 24.
Vous l'êtes 2-3 heures par jour et pas tous les jours.
Non, mais c'est un bonheur. Vraiment, ce que je voulais dire, c'est que sur scène, les émotions sont décuplées. Vous voyez, je parlais d'amour. Je pense que l'amour, Barbara l'a dit beaucoup mieux que moi, l'amour est absolument démesuré sur scène. Toutes les sensations. La peur aussi. Et pourquoi pas. Et je trouve que sur scène, on va plus loin avec l'autre. On se sent aussi en sécurité. On se sent en sécurité. On a peur, mais finalement, on ne va pas mourir sur une scène. On a peur, c'est vrai.
On peut
c'est
mourir
le prix
sur
à payer.
Scène.
Oui,
comme
enfin,
Dalida et Molière.
Et un baryton est mort la semaine dernière dans un festival, en plein milieu de son concert. Ça peut arriver, mais je n'aimerais pas mourir sur scène, contrairement à d'autres artistes, parce que ça ferait peur aux gens inutilement.
Bach, pour vous, est comme un père. Schubert, comme un frère. Vous dites de lui qu'il a été très malheureux toute sa vie, il a donc besoin d'être consolé, mais il sait aussi nous consoler. Qui vous console le plus parmi les compositeurs, en dehors de Ravel ?
Parmi les compositeurs ?
Oui.
Je dirais Schubert, oui. Schubert, qui a en effet eu tellement besoin d'être réconforté pendant sa vie, et c'est le comble, mais plusieurs siècles après, c'est lui qui nous comprend le mieux, qui nous enserre de ses bras et qui nous dit que ce n'est pas trop grave.
Tout en
on
nous.
Va continuer ensemble.
Plongeant dans la mélancolie.
Ouais. Et puis Barbara, qui n'est pas très éloignée de Schubert. Elle a d'ailleurs écrit une chanson sur une mélodie de Schubert. Barbara, c'est aussi une artiste qui... Elle était médium. Hein. Elle était médium. Et je pense qu'un médium, après sa mort, reste un médium.
Donc médium c'est quelqu'un dans quel sens ?
Elle vous prenait la main et ça vous changeait la vie. Il ne fallait jamais lui mentir. Et j'ai beaucoup de témoignages, hein. Fallait absolument pas lui mentir. Elle savait à l'avance, elle a prédit l'accident de voiture de sa créatrice de costumes. C'est absolument incroyable. Elle l'a appelé en lui disant « ne prends pas ta voiture ». C'était vraiment quelqu'un, elle était un peu sorcière, vous voyez, elle sentait les choses avant tout le monde.
Alexandre Tarot, il nous reste à peu près une minute. Sur votre Instagram, je parlais d'une chose frivole, il y a des natures mortes sur piano. De quoi s'agit-il?
Des leçons de piano, j'ai voulu continuer comme ça, toutes les trois photos, toutes les trois postes, ouais. Donc ça fait une sorte de bande, comme ça, de colonne infinie, j'en suis à ma presque 500e photo. Je prends à droite et à gauche des photos de clavier sur lesquelles je pose du fromage, des moules, un poisson, des faux doigts coupés, des crânes, des livres, ce qui me passe par la tête.
Vous avez déjà prévu la prochaine photo ?
Qui sortira demain, absolument.
Ah oui ?
Oui.
Ce
sera une merguez. Ben vous verrez demain matin.
Mon Dieu, mais je ne peux pas attendre. Écoutez, il reste 30 secondes. Quelle est la prochaine chose réjouissante que vous vous apprêtez à faire ?
Ah bien, je pars à Amsterdam. Je commence une résidence au Muziekgebouw, qui est une salle moderne merveilleuse, pas très loin de la gare centrale d'Amsterdam. Une grande salle. Très 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 belle, à l'acoustique inouïe, et dans laquelle je vais donner plusieurs concerts tout au long de la saison. Et ce dimanche, ça va être articulé en trois concerts. Le premier, une lecture de mon livre en néerlandais, avec une violoncelliste. Ensuite un récital, puis un dodo tarot, un concert dans le noir, où tout le monde sera allongé.
Merci beaucoup Alexandre Tarot d'être venu.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Lola Costantini et préparée par Céline Villegas et Estelle Gap, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Philippe Duclos. Dans le prochain épisode, il sera question de Mendelssohn avec la violoncelliste Sol Gabetta.